die whilst in the shelter from contamination, put them outside. But remember to tag them first for identification purposes. Mine is the last voice that you will ever hear.
Bonjour à tous et à toutes, c'est la musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs comme chaque semaine, le vendredi de 9 à 10 heures, rediffusion le lendemain, le samedi de 14 à 15 heures, toujours sur Radio Air Libre, le 87,7 FM, si vous nous écoutez dans la région de Bruxelles. Puis on peut aussi nous écouter en DAB+, et par la voix de l'Internet, au moyen de vos programmes, applications pour téléphone, tablette et autres ordinateurs. En fond sonore, pour vous présenter cette émission et son programme, For You, et c'est Harold Garner au piano. Depuis de longues années déjà, la musique adoucit les mœurs vous propose chaque semaine un rendez-vous qui tourne autour de toutes les problématiques possibles et imaginables liées à la paix et à la non-violence, c'est-à-dire tout ce qui concerne les obstacles à la paix et à la non-violence et dans les différents sous-aspects que cela peut présenter. Alors, certaines fois, on va plus parler de problèmes économiques, sociaux, sanitaires, etc., etc. D'autres, on va parler plutôt de géopolitique. D'autres émissions encore, ce sera plus centré sur la lutte contre différents types d'armements, qu'ils soient nucléaires ou autres, et la lutte contre les conflits en général. Alors, on commencera avec un texte qui date de 2021 et qui parle de la doctrine nucléaire de l'OTAN et plus particulièrement de fissures qui étaient apparues dans le consensus sur la doctrine nucléaire de l'OTAN. C'est un texte qui vient de l'association flamande Vrede et que je trouvais intéressant de ressortir maintenant que l'OTAN s'est trouvé de nouvelles raisons d'exister. Et puis également un autre phénomène dont on parle très peu et qui pourrait représenter un vrai danger dans le futur. Il s'agit de ce qu'on appelle parfois les armes climatiques. Et il y a pas mal de complotisme là autour, mais on verra de quoi il s'agit dans cette émission. Et puis, je vous l'avais promis, on parle aussi régulièrement d'associations ou de personnalités qui ont fait la une du travail pour la non-violence ou pour l'antimilitarisme. Et je vous propose un petit portrait du service civil international. Mais dans cette émission, il y a aussi des chansons. Et puisqu'on va parler de doctrine nucléaire de l'OTAN, je vous propose une chanson qui date des années 80, un grand moment de déploiement des euromissiles. Vous vous en souviendrez sans doute. C'est Pierre Rapsat qui nous chante. Ben les résultats du nucléaire, ça pourrait bien être les mutants.
Mutants, mutants, tes yeux rouges n'ont plus de paupières, tes ongles cassent comme du verre, c'est la mode nucléaire. Mutants, mutants, plus de cheveux, plus de sourcils, t'as la tête d'un reptile, des profils nucléaires.
Que vous vous êtes comme moi amusé avec les paroles de cette chanson. Mutant, c'était Pierre Rapsat, à son époque où on dansait sur du Pierre Rapsat dans les dancings à Bruxelles et en Belgique en tout cas. En fond sonore, pour aborder le premier sujet de cette émission, la musique adoucit les mœurs, je vous propose du Hector Berlioz et plus particulièrement l'ouverture du Carnaval romain. C'est interprété par le Philharmonia Orchestra sous la direction d'Herbert von Karajan, ce qui vous fera sans doute penser au fait que ce n'est pas un enregistrement d'hier. Alors, quand je prépare cette émission, je repère toujours l'un ou l'autre texte qui pourrait servir de sujet à notre façon de fonctionner, c'est-à-dire sous forme de dossier, à partir de publications diverses, d'origine diverse aussi. Je vous propose souvent un commentaire sur un certain nombre de choses, en plus des contenu de ces articles, de ces documents. Alors, parfois c'est intéressant de retrouver des anciens documents, des choses qui ont été publiées il y a quelques années déjà, 2-3 ans, ou alors beaucoup plus, et de comparer avec la situation d'aujourd'hui, en quelle manière est-ce que le texte qui est là était prémonitoire ou pas, ou est-ce que les choses ont changé et pourquoi ? C'est le cas d'un texte qui avait été publié par Vray de la coupole des organisations de paix du côté flamand, texte de son président ou de son porte-parole, Ludo de Brabander, intitulé « Des fissures dans le consensus sur la doctrine nucléaire de l'OTAN ». Alors, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN se cherche une raison d'être. Elle a proposé ses services à l'ONU à de nombreuses reprises. Parfois ça a marché, parfois pas. Et elle s'est aussi vue dans le rôle de gendarme du monde. Et grâce à M. Poutine et ses idées bizarres, eh bien, enfin, l'OTAN peut se dire qu'elle a resserré les rangs d'une part qu'elle s'est retrouvée un rôle à jouer dans le monde, et en tout cas dans le monde occidental, et également que, eh bien, qu'on reconnaît ce truc-là, et qu'en plus, les pays membres ont décidé d'augmenter leur budget nucléaire, parfois de façon assez importante. Je pense à la France, par exemple, qui a décidé de hisser son budget militaire à plus de 400 milliards d'euros, alors que, d'un autre côté, comme vous le savez, une des raisons de la réforme des pensions en France, c'est le fait qu'il manque quelques centaines d'euros, de millions d'euros, ou de milliards d'euros, non, de millions d'euros, bien entendu, pour boucler le budget. Alors voilà, fissure dans le consensus sur la doctrine nucléaire de l'OTAN, écrivait Ludo de Brabander en décembre 2021, donc avant le début de la guerre en Ukraine. Alors, la Norvège et l'Allemagne, deux États membres de l'OTAN, ont annoncé qu'ils participeraient à la première réunion des États parties au traité d'interdiction nucléaire à Vienne l'année prochaine. C'était donc la réunion de 2022. Ce faisant, ils s'écartent de l'attitude de l'OTAN qui s'oppose fermement à une interdiction des armes nucléaires. Et la question est de savoir, nous dit Ludo de Brabander, que fera la Belgique ? Alors, on a déjà parlé de ce traité de non-prolifération et d'interdiction, même plus que le traité de non-prolifération, TNP, traité d'interdiction des armes nucléaires, qui fait donc que les pays qui détiennent les armes nucléaires, qui en fabriquent, qui en vendent, qui en bougent, qui en mettent chez leurs voisins, sont des États à considérer, ou que l'ONU considère comme des États voyous. Et donc, je ne vais pas vous faire la liste des pays nucléaires, en sachant aussi qu'il y a des armes nucléaires en dépôt, on va dire ça comme ça, ici en Belgique, comme vous le savez. Au sommet de Lisbonne en 2010, l'OTAN a adopté un concept stratégique dans lequel l'organisation militaire se définit comme une alliance nucléaire. Tant que les armes nucléaires existeront, c'est une citation, tant que les armes nucléaires existeront, l'OTAN restera une alliance nucléaire. Cette attitude n'a pas changé. Bien au contraire, lors du sommet à Bruxelles en juin de 2021, les chefs d'État ou de gouvernement de l'OTAN ont adopté le rapport OTAN 2030, unis pour une nouvelle ère. Grâce à Poutine, ils ont réussi à remplir cette prospection. Unis pour une nouvelle ère qui sera moulée dans un nouveau concept stratégique lors du prochain sommet de Madrid en juin 2022. Le rapport indique que l'OTAN doit poursuivre et revitaliser les accords de partage des armes nucléaires qui sont un élément essentiel de la politique de dissuasion de l'OTAN. On est toujours bien dans un cadre de dissuasion et on voit où ça nous mène aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Le rapport indique que l'OTAN doit poursuivre et revitaliser les accords de partage des armes nucléaires, qui sont un élément essentiel de la politique de dissuasion de l'OTAN. Les États-Unis possèdent environ 100 à 150 armes nucléaires avancées dans 5 pays européens, donc la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie. Armes qui seront remplacées par de nouvelles bombes nucléaires B-61-12 à partir de l'année prochaine, et c'est donc en cours. Et à ma connaissance, je n'ai pas eu d'informations comme quoi l'installation des nouvelles armes nucléaires, modernisées donc, est terminée. Mais si ce n'est pas terminé, c'est que c'est encore en cours. Bon. Hormis la Turquie, ce sont les avions de combat des pays concernés qui sont chargés de leur déploiement, ça veut dire de les utiliser. Cette division nucléaire du travail devrait servir avant tout un objectif politique et assurer la participation la plus large possible des alliés concernés aux accords de division nucléaire du travail afin de démontrer l'unité et la détermination de l'Alliance au sommet de 2021. Cependant, nous dit Ludo de Brabander, cependant, la position commune de l'OTAN en tant qu'alliance nucléaire semble être sous pression. L'année dernière, écrit-il, Rolf Mützenich, chef du groupe des sociodémocrates au Bundestag, a déclaré que l'Allemagne doit exclure le déploiement d'armes nucléaires américaines à l'avenir. L'Allemagne, comme la Belgique, n'a jamais confirmé ou nié la présence d'armes nucléaires américaines sur son territoire à la base aérienne de Büchel pour l'Allemagne. Mützenich a ramené leur existence dans la mémoire politique. Le SPD, donc le Parti social-démocrate, est devenu le plus grand parti après les élections du 26 septembre et a formé un gouvernement le mois dernier avec les Verts et le FDP, le Parti libéral. Dans l'accord de coalition, le nouveau gouvernement a déclaré que l'Allemagne participera en tant qu'observateur à la première réunion des États parties du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, réunion qui s'est tenue à Vienne du 22 au 24 mars 2022. Début octobre, le gouvernement de la Norvège, pays membre de l'OTAN, a déjà décidé d'y assister en tant qu'observateur. Le débat fait également rage dans d'autres pays membres de l'OTAN, écrit Brabander. L'accord de coalition belge du 30 septembre 2020 indique qu'il veut examiner avec les alliés européens de l'OTAN comment le traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires peut donner un nouvel élan au désarmement nucléaire multilatéral. C'est un peu raté pour le moment. Malgré le fait que le ministre belge des Affaires étrangères a récemment déclaré que le traité d'interdiction nucléaire n'était pas le bon instrument pour le désarmement nucléaire, l'exemple allemand peut garantir que la Belgique ira également à Vienne. Aux Pays-Bas, autre pays hôte de l'arme nucléaire, Jasper Van Dijk, député du Parti socialiste, a déposé une motion demandant que son pays soit présent à la première réunion de ce traité de non-prolifération nucléaire et d'interdiction nucléaire. La motion a été rejetée à une courte majorité, enfin 68 des 150 sièges. Deux partis, D66, qui est libéral à ma connaissance, et Christenunie, social-chrétien, impliqués dans les négociations de coalition en cours, ont voté pour. Au total, 9 partis ont soutenu la proposition. C'est pas fini. Je devais retrouver ma page et le trombone ne voulait pas. Cette évolution donc, dans les mentalités, le fait qu'on dit d'abord on ne veut pas de ce traité d'interdiction des armes nucléaires, c'est au contraire, ça va empêcher le TNP, le traité de non-prolifération, de fonctionner à plein, alors qu'il est en panne depuis des années. Et donc on passe à une méthode où on va quand même aller comme observateur. On va montrer sa bonne volonté, où on ménage, certains diront, on ménage la chèvre et le chou, ce qui est peut-être plus la réalité, où on repousse un peu et on ne veut surtout pas embêter les Américains, qui sont effectivement les gros. Tout le monde est égal dans l'OTAN, sauf que certains sont plus égaux que d'autres, sans doute. Et en tout cas, certains ont plus de moyens que d'autres. Et parmi ces moyens, il y a bien sûr les moyens américains. Il n'y a pas que les États-Unis qui ont des armes nucléaires et les pays qui en ont en dépôt. Il y a aussi la France et le Royaume-Uni, comme vous le savez, qui détiennent leur propre arsenal nucléaire et qui font de leur défense sur ce nucléaire, comme l'ont rappelé d'un côté le président Macron en France au moment de son investiture pour son deuxième mandat, et également M. Rishi Sunak du côté des conservateurs, chef du Parti conservateur et en même temps du gouvernement au Royaume-Uni. Mais donc, le fait que certains disent « j'irai quand même bien voir à... », et entre autres l'Allemagne, qui n'est pas le plus petit pays dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, que l'Allemagne dise « moi je vais quand même aller à Vienne pour voir ce qui s'y passe », eh bien, ça fait évidemment du remue-ménage au sein même de l'OTAN. Cette évolution, écrit Ludo de Brabander, pourrait saper le consensus sur la politique nucléaire de l'OTAN. Depuis sa signature en juillet 2017, l'OTAN mène une campagne presque agressive contre le traité d'interdiction nucléaire. La déclaration finale du sommet de l'OTAN à Bruxelles en juin 2021 se lit comme suit. Nous réitérons notre opposition au traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui est contraire à la politique de dissuasion nucléaire de l'Alliance. À l'architecture existante de non-prolifération et de désarmement, menace donc de saper le traité de non-prolifération, ça c'est leur idée, et ne tient pas compte du contexte sécuritaire actuel. L'OTAN affirme également que le traité de non-prolifération demeure la pierre angulaire de l'architecture mondiale de non-prolifération et de désarmement, et que ses alliés sont fermement attachés à la pleine mise en œuvre du TNP sous tous ses aspects. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, le TNP il est en panne depuis des années. Il y a tous les 5 ans un sommet pour voir où on en est, pour remettre la casserole sur le feu, en quelque sorte. Et on n'a pas avancé d'un pouce depuis très longtemps, ce qui fait dire à certains que le TNP est mort, pas encore enterré, mais mort quand même. Et d'un autre côté, certains profitent évidemment aujourd'hui du fait du conflit en Ukraine pour dire « mais vous voyez, c'est important qu'on ait des armes nucléaires, sinon la Russie nous envahirait ». Une autre façon de voir les choses, c'est de dire que des deux côtés, tant du côté russe que du côté de l'OTAN, on a des armes nucléaires. On dit on est méchant, on va les utiliser si vous êtes méchant de votre côté, si vous dépassez telle ligne rouge. Et puis finalement, on fait toujours de la dissuasion depuis des années. Autrement dit, comme disait Christian Stefanski dans une chanson, ils disent qu'ils ne les emploieront pas. Alors, petit rappel de Ludo de Brabander concernant le TNP. Il est entré en vigueur il y a plus d'un demi-siècle, nous dit-il. C'était en 1970, mais il n'a pas empêché des programmes d'investissement massifs dans les arsenaux nucléaires. Dans le TNP, chaque État, y compris les États dotés d'armes nucléaires, s'engage à œuvrer pour un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Et donc, malgré cet espoir et le fait de miser sur le TNP, eh bien, les pays nucléaires de l'OTAN, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont dépensé en 2020 49,3 milliards à la modernisation et l'entretien de ces armes nucléaires, ce qui faisait plus de 2/3 de toutes les armes nucléaires, de toutes les investissements d'armes nucléaires de cette année. Alors, donc comme je le disais, alors que l'OTAN et les États membres affirment depuis des décennies qu'ils sont engagés en faveur de la maîtrise des armements, du désarmement et de la non-prolifération, but du TNP donc de 1970, il y a plus de 50 ans, et bien dans la pratique, c'est le contraire qui se produit. Ce printemps, c'était donc en 2021, le Premier ministre de l'époque, Boris Johnson a annoncé son intention d'augmenter de plus de 40% le nombre de têtes nucléaires britanniques, c'est-à-dire de passer de 180 à 260. en violation des obligations du traité de non-prolifération. La livraison américaine de submersibles à propulsion nucléaire à l'Australie, annoncée en septembre dans le cadre d'un nouveau pacte de défense entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, c'est ce qu'on a appelé l'AUKUS, c'est une autre violation potentielle du TNP car il crée un précédent où d'autres pays peuvent également acheter des sous-marins à propulsion nucléaire alors que les mécanismes de vérification n'ont pas encore été développés pour empêcher le combustible nucléaire d'être utilisé dans un programme d'armes nucléaires. Après tout, continue de Brabander, après tout, il s'agit d'uranium enrichi qui peut être utilisé pour des armes. Des pays comme le Canada, la Corée du Sud et le Brésil ont déjà exprimé leur désir d'avoir des sous-marins nucléaires. Bref, une zone grise, mais qui met à mal le régime de non-prolifération. Alors que, vous allez me dire, mais là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Que fait le mouvement européen de la paix? Et donc, c'est le dernier paragraphe de ce texte de Vrede. Plusieurs rencontres internationales importantes auront lieu en 2022, écrivait-il. La 10e conférence d'examen du TNP se tiendra à New York du 4 au 28 janvier. On en a parlé à l'époque. 2 mois plus tard, il y a la réunion des États partis à Vienne. L'OTAN tiendra son prochain sommet de l'OTAN en juin et devrait réaffirmer sa politique de dissuasion nucléaire. Il s'agit donc d'une année cruciale pour le mouvement, pour la paix, dans le but d'accroître la pression sur les autres États membres de l'OTAN pour qu'ils suivent l'exemple norvégien et allemand et brisent davantage la solidarité nucléaire au sein de l'OTAN. Au sein du gouvernement belge, divers partis, comme les Verts et Voreut, sont favorables à ce que la Belgique participe en tant qu'observateur à la réunion de Vienne, ce qui serait parfaitement conforme à l'énoncé de l'accord de coalition. La position farouche de l'OTAN montre que l'Alliance a compris que le traité d'interdiction donc nucléaire met en danger la doctrine nucléaire de l'OTAN. Par exemple, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, qui connaît son heure de gloire pour le moment, comme vous le savez, a averti que les armes nucléaires américaines pourraient être déplacées plus à l'est, c'est-à-dire plus près de la Russie, si l'Allemagne se retirait du projet. Cela ne peut bien sûr pas être l'intention. Les sondages dans toute l'Europe montrent qu'au moins les 3/4 de la population souhaitent l'interdiction des armes nucléaires. Le mouvement pacifiste européen travaille d'arrache-pied, comme en septembre dernier avec des actions conjointes dans 6 pays de l'OTAN, pour que les armes nucléaires figurent plus haut dans l'agenda politique, afin que la volonté du peuple se traduise enfin en politique. Une première étape consiste à rendre l'Europe exempte, d'armes nucléaires, pour laquelle les négociations et un accord avec la Russie sont souhaitables. Eh bien, on n'est pas sorti de l'affaire. Et comme M. Poutine et ses copains ont décidé de jouer au chien dans le jeu de qui, et je suis gentil quand je dis ça, évidemment, ça ne fait que renforcer la position de l'OTAN et, entre autres, son option nucléaire. Voilà. Et au final, c'est tout dit, les petits consproches, comme disait l'autre, les morts et les blessés d'un côté, et également le fait que la paix n'avance pas, l'idée même de la paix n'avance pas tant qu'il y aura des combats et que ces problèmes ne seront pas réglés. Toujours du Hector Berlioz en fond sonore. Vous êtes toujours à l'écoute de la musique adoucie les mœurs sur Radio Air Libre. On va continuer en musique et en chanson avec le groupe belge Joshua, qui n'existe plus, et qui avait trouvé une solution pour la fin des guerres. C'est contenu, la réponse et la solution contenue dans le titre de la chanson « Kill your own army ».« Tuez votre propre armée ». Ben c'est vrai que si tout le monde supprime son armée, ben il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de guerre. On écoute Joshua. Joshua avec Kill Your Own Army pour suivre Al Blackie and the Jazz Messenger avec un morceau intitulé Come Rain or Come Shine. Pour aborder le sujet suivant dans cette émission, la musique à douce humeur, vous savez que je prends un malin plaisir d'ailleurs à voir les sources les plus diverses possibles. Alors parfois c'est les groupes locaux pour la paix, parfois c'est un groupe militant, parfois ce sont des grandes organisations internationales ou alors des organes de presse belges ou étrangers. Ainsi, j'ai trouvé cet article que je me semblait intéressant, en tout cas vous en touchez un mot. Un article paru dans le journal français Le Figaro le 17 mai dernier, c'est-à-dire tout récemment. Un article de Steve Tendré intitulé « Chemtrails, projet ARP, bombe sismique dans le secret des armes climatiques ». Alors, de prétendus armements capables d'engendrer des catastrophes naturelles sont au cœur de multiples thèses conspirationnistes, écrit le journaliste. Elles se confondent à de réels projets de modification du climat qui suscite la crainte des chercheurs. Et pour illustrer l'article, il y a une photo qui montre un ouvrier chinois qui prépare des roquettes d'ensemencement des nuages près de Pékin, en Chine, donc. C'est-à-dire, on envoie dans le ciel des choses qui sont censées faire pleuvoir les nuages, si je peux le dire de cette manière-là. Alors, côté conspirationniste, ça va très loin, parce qu'on se dit que parfois, dans certains milieux, ou bien ils boivent beaucoup, ils fument la carpette, j'en sais rien, mais bon, par exemple, un des trucs qui court pour le moment sur les réseaux, c'est la question de savoir si la CIA a tué plus de 50 000 personnes en lâchant une bombe vibratoire à la frontière turco-syrienne, là où s'est produit un important séisme en février dernier. Alors, il y a un essayiste français très controversé qui s'appelle Idriss Aberkan. Pour lui, la question mérite d'être posée. Dans une récente vidéo, il affirme que ses 774 000 abonnés sur YouTube, qu'il serait faux d'écarter la possibilité que le tremblement de terre fût le fruit d'une arme technique pour faire résonner les sols. Alors, pour justifier ses dires, le conférencier assure que le célèbre inventeur Nikola Tesla, dès les années 1930, aurait réussi à faire trembler des bâtiments entiers avec de tout petits résonateurs, et que la tentative de coup d'État en Turquie en 2016 aurait été orchestrée par les services secrets américains. Alors, la vidéo donc, sur YouTube de Idriss Aberkan a été vue 465 000 fois. Quelques semaines après sa sortie, elle n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de contenu relayant l'existence d'armes climatiques capables de déclencher des catastrophes naturelles, écrit Steve Tanray. C'est le début de l'article, donc je ne vais pas vous faire la lecture entière. Je voulais quand même vous attirer votre attention sur le fait qu'il y a ce genre de choses-là qui circulent. Et moi, ça m'a fait penser, en lisant cette histoire, avec les bâtiments qui peuvent vibrer, etc., peuvent éventuellement s'écrouler. Il y a, souvenez-vous, dans l'affaire Tournesol, les aventures de Tintin, le professeur Tournesol qui a inventé une machine, effectivement, qui permet de détruire, grâce à des ondes, de détruire des bâtiments. Il en fait la démonstration d'ailleurs devant un parterre de personnalités. Il est de ce fait enlevé et on l'oblige à se mettre au service d'un pays voyou, on peut l'appeler comme ça. Je ne sais plus si c'était la Bordurie ou la Sildavie, probablement la Bordurie, parce que les bordures, comme vous le savez, sont des gens infréquentables. D'ailleurs, ils parlent des langues bizarres. C'est d'humour. Et donc, l'affaire Tournesol et l'invention du professeur Tournesol se base effectivement sur des recherches qui ont eu lieu, peut-être pas dans les années 30, mais dans les années 40, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, et qui ont été menées pour voir s'il y avait moyen, avec des ondes qui seraient envoyées vers telle ou telle direction, de détruire, de faire des dégâts, de détruire des bâtiments, par exemple. Why Can't We Live Together? C'était Steve Winwood. Ça correspondait bien au contenu que je vous ai présenté avant et avec ce qui va suivre également. En fond sonore, eh bien, l'ouverture un capriccio italien de Tchaïkovski. Alors, c'est interprété par l'Orchestre Symphonique National d'Ukraine sous la direction de Théodore Kouchar. Et c'est ça n'a pas été enregistré hier, je vous assure. Un capriccio qui va nous permettre d'aborder le troisième et dernier sujet de l'émission, la musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui, toujours sur Radio Air Libre, bien entendu, et de temps en temps, je vous ai promis la semaine passée de le faire. On vous présente des organisations internationales, on vous rappelle qu'elles existent et quelle est leur histoire, en quelque sorte. Et cette semaine, je vous propose de vous parler du service civil international. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, j'ai rien d'autre en magasin. Donc, le SCI, Service Civil International, organisation non gouvernementale, qui organise des projets de volontariat qui contribuent à la construction de la paix. Alors, c'est une de ces nombreuses associations. On avait parlé du MIR la semaine dernière. Je vous avais aussi parlé du MCP, le Mouvement Chrétien pour la Paix. Des organisations qui ont été créées au lendemain de la Première Guerre mondiale, en général par des anciens soldats des deux côtés du front, et avec également une inspiration religieuse dans la plupart des cas. Alors ici, un personnage qui a été vraiment marquant pour la création du service civil international, c'est Pierre Cérezol, qui est un ingénieur suisse et donc qui a fondé avec quelques autres le SCI en 1920. C'est la plus ancienne des associations de chantier et a pour objectif de promouvoir la paix en posant des actes essentiellement par des chantiers de volontaires regroupant des hommes et des femmes d'origine sociale, religieuse, ethnique et d'âge différents. Elle associe la réflexion au travail manuel. 43 sections membres du SCI existent dans 43 pays. Parce qu'il y a des pays où... Dans 40 pays, pardon. Il y a des pays où il y a plus qu'une section. Ce pourrait bien être le cas en Belgique, d'ailleurs, où il y a une section du Service civil international qui loge à la Maison de la Paix, au 35 rue Van Elleweghe, à Ixelles, près de la place Flagey. Alors, le premier chantier, en 1920, a eu lieu près de Verdun. Il s'agissait de remettre en ordre le terrain, une partie de terrain en tout cas, et de le faire par des volontaires venant de plusieurs pays. Donc, peu après la Première Guerre mondiale, a eu lieu une rencontre qui s'est déroulée à Bilthoven aux Pays-Bas. Et c'était des pacifistes chrétiens en provenance de plusieurs pays européens. Bilthoven, aux Pays-Bas, a également été le centre d'autres rencontres et de la création d'autres organisations, en plus du SCI, évidemment. Et donc l'idée qui émerge lors de ces rencontres, c'est de réunir des volontaires de divers pays pour travailler à la reconstruction. Après la Première Guerre mondiale, elle a été particulièrement rude dans les régions touchées. On veut proposer une alternative au service militaire obligatoire et l'association est créée en 1920, déjà sous le titre Service civil volontaire international. Principal fondateur, je vous l'ai dit, c'est l'ingénieur suisse Pierre Cérezol, mais sur pied en 1920 un premier chantier de reconstruction à Esnes, ça s'écrit E-S-N-E-S, c'est près de Verdun, en France. Et donc, il a mis sur pied ce chantier avec quelques autres pacifistes, dont le Quaker anglais Hubert Parris, un des initiateurs des rencontres de Bilthoven. Ce camp, donc celui près de Verdun, a réuni des volontaires anglais, belges, français et allemands afin de contribuer à la réconciliation des peuples qui venaient de s'affronter. Alors, il est évident que si peu de temps après la fin du conflit, cette première expérience n'a pas été simple à organiser, mais l'esprit de ce premier chantier se répand rapidement. Les volontaires de ce chantier souhaitent convaincre d'autres personnes qu'œuvrer pour la paix dans un tel cadre peut constituer une véritable alternative au service militaire. Donc, dès l'époque, on le présente comme une alternative au service militaire. Ce sera également le cas par après. Mais moi, j'ai connu aussi des organisations de jeunesse, du scoutisme et autres, qui faisaient des chantiers qui participaient à des chantiers du service civil international. Alors, le nombre de volontaires augmente rapidement et il gagne également le soutien des populations locales et parfois de certains gouvernements. Dans les années 1920, le SCI organise de grands projets de volontariat apportant secours et assistance dans les zones touchées par des inondations ou des avalanches. Lors de la guerre civile en Espagne, de nombreux volontaires participent à l'évacuation et à l'accueil des réfugiés espagnols. C'est sur le chantier des Ormonts en Suisse en 1924 que l'un des premiers volontaires, John Dobras, qui est objecteur de conscience en 1915, chante ce qui deviendra le symbole le signe de ralliement du service civil, jusque dans les années 1960, une chanson intitulée « L'amitié ». Bref, je vous la retrouve, celle-là. La structure des premières années était très informelle. Les décisions d'engagement se prenaient entre Pierre Cérézol, son frère Ernest ou encore Paul Schenker. À Berne, en 1934, une assemblée générale nomma un comité et engagea Rodolfo Olgiati comme premier secrétaire rétribué. Dès l'année suivante, apparut un bulletin, le service civil, en allemand et en français. En Angleterre, fut fondé The International Volunteer Service for Peace. C'était aussi en 1934. La branche française, créée en 1936. Le réseau qui se crée alors est appelé Service Civil International. D'autres membres actifs créent des groupes dans leur propre pays. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le SCI est présent en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, en Suisse et en Tchécoslovaquie. Après la guerre, donc ça, évidemment, une organisation de paix, de volontariat, ne permet pas, malheureusement, d'empêcher les guerres. Pour ça, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus étendue et que les gens se connaissent et se fraternisent au-delà des frontières. Après la guerre, donc, sont développés des échanges de volontaires entre l'Europe et l'Asie, ainsi qu'entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest, et l'Afrique du Nord. Dans les années 1960, la façon d'organiser les chantiers change. Outre le travail lui-même, les aspects pédagogiques et l'échange international occupent désormais une place importante dans les chantiers. Le mouvement devient également plus engagé politiquement. Dans les années 1980, la paix redevient la préoccupation majeure du SCI, c'est donc la course aux armements nucléaires, le déploiement des euromissiles. Dans les années 80, comme vous le savez, la paix redevient donc une préoccupation majeure pour le SCI et la coopération Est-Ouest s'intensifie au moment de la guerre froide. Les projets concernant les jeunes, les chômeurs et les questions Nord-Sud sont également très importants dès cette époque et ont débouché à la création de nombreux groupes de travail internationaux. Alors, me direz-vous, avec le temps donc, le travail du SCI s'est élargi et s'est tourné vers de nouvelles questions comme le conflit dans les Balkans, l'écologie, l'aide aux réfugiés, etc. Après la chute de ce qu'on appelait le rideau de fer, de nouveaux partenariats se créent, puis il définit un programme stratégique pour les années 2004-2009. Les discussions autour de la démocratie et de l'efficacité au sein de la structure, de la portée du travail pour la paix et du rôle du SCI animent sans cesse le mouvement en constante évolution. Alors en Belgique, je vous ai dit qu'il y avait une section qui existe et qui existe toujours, et elle a été fondée non pas à Bruxelles, mais bien à Philippeville, et c'était en 1947. Et donc aujourd'hui, le SCI a ses locaux à la Maison de la Paix, rue Van der Loeck, à Ixelles. Voilà, alors je me suis basé sur une présentation principalement dans Wikipédia pour vous présenter le service civil international que j'avais eu l'occasion de vous présenter, mais il y a de longues années, donc c'était peut-être l'occasion de revenir sur cette organisation, comme on l'avait fait d'ailleurs avec d'autres organisations de paix. Toujours bon de rappeler pourquoi, comment et comment ça fonctionne aujourd'hui. Si ça fonctionne toujours aujourd'hui, c'est une bonne question aussi à poser. Mais je remarque que la plupart de ces organisations, en tout cas, continuent, malgré vent et marée, à réaliser des choses, à prendre position, à participer à des activités, à des manifestations, à des colloques, à des rencontres, etc., etc. Alors, puisqu'on a encore quelques minutes et qu'on a ce beau capriccio italien en fond sonore, un capriccio italien qui nous vient d'Ukraine, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bien, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la musique adoucit les mœurs, que c'est tous les vendredis de 9 à 10 heures et que l'émission est rediffusée le lendemain, le samedi, de 14 à 15 heures après l'émission africaine et avant l'histoire des luttes qui vous est proposée à 15 heures à ce moment-là. L'émission La musique adoucit les mœurs de 14 à 15 heures le samedi. Si vous désirez nous envoyer des critiques, remarques et suggestions, eh bien, il y a pour ce faire plusieurs moyens. Vous aussi, si vous lisez quelque chose d'intéressant, vous dites, tiens, ça, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une rubrique, d'une séquence dans l'émission La musique adoucit les mœurs. N'hésitez pas à nous le communiquer. Pour ce, trois moyens. Il y a d'une part la page Facebook de l'émission. Alors, j'y poste parfois des choses qui sont plus difficiles à détailler en radio, entre autres si c'est des gros dossiers par exemple que vous pouvez lire en ligne, eh bien je vais peut-être vous en faire un résumé dans l'émission et puis à vous d'aller éventuellement compléter votre lecture. C'est la page Facebook, c'est gratuit et c'est un groupe auquel vous pouvez évidemment adhérer sans problème. Si vous faites une demande, je me ferai un plaisir de mettre un petit oui à côté de votre nom. Alors, deux autres adresses, adresse postale, adresse électronique de Radio Air Libre, le 365A, j'insiste sur le A, 365A, chaussée d'Alsenberg, D'Alsenberg, à 1190 Bruxelles, c'est 1190 et pas 1180. Et l'adresse électronique, c'est Radio Air Libre, en un mot, @skynet.be, comme c'est le cas depuis de longues années déjà. Eh bien, puisqu'on a encore quelques minutes, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit, sur Radio Air Libre, où il y a plein de chouettes musiques qui passent pour le moment. Et parfois, il y a des émissions qui sont prévues et qui ne passent pas, ou qui ne passent pas au moment prévu. Mais ça, c'est encore une autre chose. On est en train de modifier deux, trois choses dans l'organisation de la radio. L'organisation technique, disons, et ça a parfois une influence un peu curieuse sur la diffusion des émissions. D'ici là, la semaine prochaine, et en attendant, eh bien, dans quelques instants, la suite de nos programmes sur Radio Air Libre.